merci beaucoup pour l'invitation aussi et pour l'organisation de l'événement. Je vais essayer de faire une comparaison de la correspondance des soldats de la Révolution française et de la Grande Guerre. Et cette confrontation des écrits nous, de ces deux périodes nous permet d'étudier plus profondément la transition d'une culture orale à une culture scripturale. Et cette transition n'a été ni un événement soudain, ni l'expérience d'une génération particulière, mais cela signifiait pour les classes populaires un processus graduel de rapprochement du monde des lettres et des textes. Avant cette transition, il y avait une bipartition entre une majorité illettrée et une minorité lettrée, mais c'est important de rappeler que savoir lire et écrire peut être considéré plutôt comme un continuum que comme une dichotomie. Par conséquent, l'opposition simple entre lettré et illettré, il y a quelques études, par exemple le Franck Arosoff Schneider qui ajoute comme troisième groupe ceux qui emploient une langue non conforme. Donc, contrairement à l'opinion traditionnelle selon laquelle la société rurale était complètement exclue de la scripturalité à la fin de l'Ancien Régime, des études plus récentes postulent que l'aptitude à lire et écrire était répandue aussi dans ces groupes-là. Donc, les thèses que je veux défendre sont le processus graduel des rapprochements des classes populaires au monde des lettres et des textes avait déjà commencé vers la fin du XVIIIe siècle. Et la comparaison des lettres des soldats de la Révolution et de la Grande Guerre permet d'estimer l'avancement de l'insertion à la culture nationale, de l'homogénéisation linguistique et finalement aussi de la scripturalité. Mais comment estimer le degré de scripturalité dans une série de textes? Pour cela, j'ai choisi quelques catégories pour faire la comparaison. D'un côté, la présence d'éléments dialectaux, et en ce cas, je vais essayer de faire une comparaison avec les écrits du Corpus 14, parce qu'il existe déjà une étude réalisée par Michel Géard là-dessus. Et outre les éléments dialectaux, je vais montrer les résultats d'une comparaison dans les catégories de la négation préverbale versus postverbale, ça veut dire absence ou présence de ne de la négation, les pronoms relatifs et les pronoms de la première personne et du pluriel. Et en ces cas-ci, je vais comparer les deux phases de CHSF, la première phase et la troisième phase de cet autre corpus. Quelques mots sur le CHSF, c'est un projet de l'Université de Kiel, dirigé par Harald Thun, et qui sera continué pour moi-même à l'Université d'Augsbourg. Il s'agit de plus de 30 000 lettres et d'autres documents écrits par peu lettrés de la France et de la Belgique francophone. Et ce sont des documents de trois phases. La première phase, c'est la Révolution et l'Empire. La deuxième phase, c'est le 19e siècle. Et la troisième phase, c'est la Grande Guerre. À la base de la présente analyse sont des lettres des soldats des archives départementales de l'Hérault. Concrètement, le sous-corpus pris en compte est constitué par 60 lettres de 57 scripteurs différents de la phase 1 du CHSF. Et cela signifie en ce cas qu'il s'agit des lettres écrites entre 1793 et 1795 par des soldats de l'armée révolutionnaire. Ils sont originaires de la communauté de l'Odève, située dans l'arrière-pays héroté, donc d'une région qui était occitanophone jusqu'au début du XXe siècle. La Branca Rosoff et Schneider écrit sur la situation linguistique en Provence, laquelle peut être considéré comme représentatif pour tout le Midi. Elle écrit « La situation linguistique implique elle aussi la coupure de l'oral et de l'écrit. En Provence, l'oral est occitan et l'écrit français. Cela vaut aussi pour les lettres du CHSF de cette phase qui représente pas seulement la scripturalité populaire, mais aussi intime. Ça veut dire que ce sont des lettres écrites à la famille. Avant d'examiner les interférences des Occitans dans ces textes, je veux citer brièvement ce qui Agnès Tecard et Michel Géa écrivent sur les interférences de l'Occitan dans le Corpus 14. Dans leur correspondance, quelques traces de régionalisme, surtout chez les femmes, mais au final, peu de choses. C'est presque le même écrit proche de la conversation que pratiquent les poilus du Nord. Et Géa écrit la rareté de l'Occitan comme médium épistolaire contraste avec sa pratique orale avant la guerre, et son usage resté courant au front. C'est à l'aune de son absence qu'il convient de le considérer dans le corpus. L'Occitan affleure surtout dans les lettres sous forme d'interférences phonétiquement syntaxiques et lexicales. En termes d'interférences phonétiques, il y a, on mentionne seulement deux phénomènes. La dénasalisation, A pris pour an, et la dissémination de S et Ch, ou R, mis pour CH, dans le verbe changer. C'est assez différent pour les générations auparavant, ça veut dire dans la première phase du CHSF. Il y a beaucoup de différents phénomènes. Par exemple, l'aspirantisation du B occlusif. Quelques exemples des lettres. Au camp de Vataille, il y a 6 jours que l'on se va, toujours sans discontinuer. Ou un autre exemple, il a resté à Nice beaucoup de temps. Cela, ma fille, ou me fille, vient de la peine. L'inverse de la spirantisation, ça veut dire l'occlusivation, se produit aussi assez fréquemment. Et puis nous étions si chagrinés pour faire le ouvrage que nous n'avons pas un moment à nous. Nous y avions mis le feu, au magasin du beurre, du fromage, du tabac et de l'eau de vie et plusieurs autres choses. Les déviances sont explicables sur la base de la déphonologisation de B et V en langue d'Occitan, évidemment. Un autre phénomène semblable consiste en la confusion entre D et R, entre les lettres. Par exemple, « Et je ne vous écrirai jamais plus de ma vie ». Pour l'exemple 6, « Et encore, l'on ne peut pas le tirer de là ». Je crois que qu'on les tirera. Cette confusion est due, sans aucun doute, à la réalisation du R comme une vibrante battue ou roulée dans le Midi. Un autre phénomène, c'est la confusion des sibilants, qui est présent aussi dans le Corpus 14, apparaît dans 25% des cas, mais j'ai précisé que les calculs portent sur le seul paradigme de changer en considérant toutes les occurrences où à l'initial est rendu par la graphie CH, la dissimulation est réduite à l'état des traces. Contrairement à cela, la confusion des sibilants n'est pas rare dans les lettres de la première phase du CHSF, vu qu'elle se produit dans 15% des lettres. Il me semble qu'il y a une tendance à palataliser le S ou le Z, respectivement, comme dans les exemples suivants. Par exemple, ils te donneront 150 livres tous les 3 mois que la loi te l'accorde. Et s'il te refuse, tu iras te plaindre au département, au lieu de refuser. Le haut pays, à moi, comme aux autres, au lieu de aux autres, tu feras bien de mes compliments à mon père et ma mère, et frères et sœurs, au lieu de sœurs. Un autre phénomène phonétique, c'est l'interférence ou l'assourdissement des opposites sonores en position finale des syllabes. En occitan, l'opposition sourde sonore est pertinente pour les opposites en position intervocalique, mais pas dans les autres positions. Et cette neutralisation correspond avec le remplacement de B pour P en position finale des syllabes, comme dans les exemples. Je vous prie de lui faire bien des compliments, et aussi à mon oncle et à toute sa famille, et sans oublier mon oncle Lucas et ma tante, et aux citoyens Joseph Laresque, tous les garçons de l'Odève, ceux qui lui font ses lettres, lui sont bien obligés et sensibles à son bon souvenir. Ce type de l'assourdissement des opposites sonores en position de finale de syllabe se produit surtout avant L. Et finalement, un phénomène vocalique, une interférence vocalique, qui est assez fréquent dans les lettres, c'est la fermeture de E ou l'ouverture de U. Par exemple, je vous ai décrit ces 2 mots de lettres pour vous donner des nouvelles. Grâce à Dieu, nous portons tous les 2 bien. Ou l'ouverture de U, en même temps que fermeture de E, dans l'exemple suivant. Je suis toujours bien portant malgré les compagnies et la mauvaise nourriture. Et des bleus, la canonade et les balles qui m'ont porté bien des fois à côte. Heureusement, sans blessure, et toujours reste à mon poste. Et comme dernier phénomène, l'interférence ou la confusion entre avoir et être auxiliaire, donc corpus 14, cette confusion est réduite à l'état de trace si l'on considère tous les verbes auxiliaires depuis corpus. Comme écrit M. Géa, et dans la première page du CHSF, se produit donc 1/5 des lettres et avec une fréquence à peu près 8%, l'on considère tous les verbes auxiliaires. Par exemple, nous avons resté là depuis le matin, ou il a parti 2 jours après, ou je suis été malade du Carcassonne jusqu'à Boulou. Voilà une quantification des interférences. J'ai m'ai orienté à l'étude de M. Géa. Il utilise les mêmes catégories: déviance, variation, standard et incidence absolue. Ça veut dire que c'est le pourcentage des lettres dans lesquelles les phénomènes se produisent au moins une fois. Et standard, ça veut dire dans l'échantillon, on trouve toujours une prédominance de la forme standard, mais on voit que en quelques cas du degré maximal de variation, ça veut dire le scripteur qui fait la confusion les plus de cas, on trouve par exemple la fermeture de E en 100% des cas dans un scripteur. En général, la forme standard est toujours la forme prédominante, mais la catégorie, ou cette catégorie montre qu'il y a réellement très bien de variations. Un autre tableau qui montre le nombre de lettres où dans lesquels se trouve au moins une de ces phénomènes décrits. Et ce tableau confirme que pour le moins un de ces phénomènes en question est présent dans plus de la moitié des lettres, et dont à leur tour, plus de la moitié présente deux phénomènes ou plus. Bon, comme peu de temps, je vais passer aux autres catégories de la scripturalité ou oralité qui n'ont rien à voir avec les interférences de l'occitan. En commençant pour la négation. La négation en français a pour particularité de se composer de deux éléments, neutre et verbal, et autre élément post-verbal, le plus fréquemment pas, ou rien, ou jamais, etc. Et dans la langue parlée, il y a la tendance à la chute de neutre. Comme dans les exemples suivants, dans la phase 1, mais ces jours-là, nous n'avons pas gagné qu'une petite hauteur. Et de la troisième phase, j'ai encore pas de vos nouvelles. Ce n'est pas un étonnant, car étant en ligne, il faut plus longtemps. Si nous regardons les chiffres de la négation complète dans la première phase et dans la troisième phase, nous constatons qu'il y a une réduction de la chute de ne. Plus précisément, c'est une réduction d'une occurrence dans 5 négations à une occurrence dans 24 négations. Une autre tendance de la langue parlée, c'est celle de simplifier les constructions relatives, plus précisément le pronom relatif que remplace dans la langue parlée toutes les formes ou, dont, qui, ou de position, préposition avec qui, quoi et lequel. Toutes ces formes sont remplacées par un que invariable, ou que un peu universel, une réduction à ce que, comme dans les exemples, et vous adresserez la lettre à Jacques Boucher que vous irez trouver son père qui vous la donnera. C'est un cas de commune, je pense. Je ne vous dis pas en bon moment la somme que j'ai besoin. Je vais passer à ces exemples de la troisième phase peut-être. Ce phénomène est encore présent dans la troisième phase. Dans les exemples, par exemple, encore il y a une grande différence avec le jour que je suis arrivé à l'hôpital, où vous transmettrez mes meilleures amitiés et mes meilleurs souvenirs à votre cher mari, que Jean conserve une affection toute particulière. Donc voilà une autre fois le schéma de la réduction à que. Et si l'on compare toutes ces possibilités de ce côté avec le que, on arrive à la suivante chiffre dans la phase lors de la première phase. Il y a le que invariable remplace toutes les usages variables dans 71 des cas, mais seulement dans 21% des cas dans la troisième phase. C'est un avancement de l'usage correct ou normatif, disons. Une tendance semblable. Qui versus qu'il. Et je vais passer à ce phénomène qui est assez intéressant, je trouve. Dans la première phase, on trouve une réduction à don dans les lettres. Ça veut dire que le don est utilisé pour beaucoup de différentes fonctions. Par exemple, je te dirais que j'ai trouvé le cadet, don est bien portant et qu'il te fait 1000 compliments. Ainsi, je te prie en conséquence de faire voir celui-là à la municipalité et faire donner un autre dont tu mélangeras donc ta réponse, etc. Et ce phénomène-là se produit pour seulement un cas isolé dans la troisième phase. Figure-toi cette envie de boire de tous les instants et dont rien ne pouvait apaiser. Bon, c'est un phénomène qui est pratiquement abandonné, ce don universel, don invariable dans la comparaison entre la première et la troisième phase du CHSC. Et finalement, le dernier élément, il y a un progrès de remplacement de « on » pour « nous » de la première phase, où trouve cet usage de « on » pour la première personne du pluriel, dans un cas seulement. Nous n'avons pas gagné une petite hauteur pour y placer quelques pièces de canon. Il y a 6 jours que l'on se bat toujours sans discontinuer et encore non plus pas le tirer de là. Je crois qu'ils iront le tirer de là. Je pense que cet homme, on doit le considérer comme représentatif de la première personne de pluriel. Bon, avec ça, j'arrive à une considération finale. Il y a une réduction prononcée de l'influence de l'occitan, à la différence des lettres des poilus, l'occitan n'est pas absent dans les lettres de leurs prédécesseurs, même si les grognards aussi n'écrivent pas en occitan à proprement parler. Les écarts par rapport à la norme sont l'expression des grandes difficultés d'adaptation à la culture nationale, mais il y a une progression d'usage normatif dans les lettres de poilus, mais d'autre côté, quelques développements se croisent. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la scripturalité dans quelques catégories ou dans quelques sens. Par exemple, la négation complète et l'augmentation de la variabilité des pronoms relatifs. Mais il y a, dans un autre sens, une augmentation de l'oralité dans certaines autres catégories. Par exemple, la progression de « on » pour la première personne de pluriel. Et un autre exemple serait l'abandon de dons non normatifs. Bon. Merci de l'attention.
Nous avons quelques minutes pour les questions, je pense. Merci pour cet exposé. J'ai en fait deux commentaires. Le premier, c'est donc comparer phase 1 et phase 3, mais en même temps, il me semble, avec les chiffres à l'appui, mais je me demande s'il ne faut pas aller un peu plus dans le détail, parce que dans la phase 1, c'est qui ces scripteurs-là, c'est quoi leur éducation, ils sont peu lettrés parce qu'ils font des fautes d'orthographe, mais on sait très bien qu'au 18e siècle, il y a des gens très éduqués qui avaient, qu'on aurait difficilement pu mettre dans les plus lettrés, mais qui faisaient quand même des fautes d'orthographe. Même chose pour les contextes, avoir et être, ça dépend du verbe. De la même façon, on sait très bien que être pouvait être employé, là où aujourd'hui on emploie avoir, donc c'est peut-être distinguer à la fois les scripteurs et aussi les contextes, parce que les chiffres en soi, je ne suis pas sûre que ça met vraiment en évidence le détail de la progression. Le commentaire que j'aurais, moi, ce qui m'a frappé pour avoir beaucoup étudié la négation du point de vue historique, c'est qu'on sait très bien que la négation augmente, l'effacement de nœuds augmente avec le temps, et chez vos scripteurs, c'est l'inverse. Ils emploient de plus en plus nœuds à l'écrit, et on parle aussi de peu lettrés. Là, je me suis posé la question, s'il ne faut pas faire un lien ici avec l'éducation nationale aussi. On sait qu'on a renforcé certains points de grammaire très précisément dans la négation.
Je suis d'accord que ça, en premier lieu, cette catégorie des peu lettrés est un peu complexe. On va peut-être trouver une autre dénomination pour ce type de scripteur, parce qu'il y a des scripteurs qui ont beaucoup d'habitude déjà d'écrire, mais ils ont peut-être des traditions ou conventions un peu différentes. Dans le cas de... On peut évidemment considérer chaque scripteur individuellement, mais ça serait peut-être une analyse très... avec beaucoup de détails, mais d'autre part, si on fait cette collection des lettres, justement pour voir des tendances générales qui se trouvent là-dedans. Et je pense que en ce cas-ci, on peut voir justement, il y a toujours quelques lettres qui sont différentes. Qui sont différents dans ce sens qu'il y a un scripteur très normatif ou qui écrit d'une façon très normative dans toutes les phases. Mais en général, on a, je pense, deux groupes qui se peuvent comparer assez bien parce qu'ils sont des soldats. Normal, ce ne sont pas des officiers. Dans le premier cas, ce sont des soldats de l'Empire. Dans le deuxième cas, ce sont des poilus. Et je pense que si l'on compare, par exemple, dans la deuxième phase de CHSF, il y a beaucoup de cas où la comparabilité n'est pas assez... bon, parce que ce sont des orphelins, par exemple, qui écrivent, ou en autre cas, sont des anarchistes, des travailleurs, des prostituées. Et en ce cas-ci, je pense que la comparabilité est un peu réduite. Mais dans ce cas des soldats, je pense que justement, on peut entrevoir dans les textes l'avancement de l'éducation pendant le 19e siècle.
Une autre question, juste une petite question sur la... Vous avez pensé à éventuellement aller regarder du côté des écrits des soldats 70-71 pour voir si leur révolté.
Ça fait partie effectivement. Et, par exemple, un autre exemple, ça serait la guerre de la Crimée. Donc, il y a dans le meilleur cas, il y a pour les trois phases des lettres des soldats. Mais on ne trouve ça pour tous les départements de la France. Parce que ce corpus a pour but de collectionner des écrits des peu lettrés de tous les départements de la France. Et ce n'est pas possible de trouver toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas?
Merci.
Merci.